Et je vais vous souhaiter la bienvenue à cette soirée au nom de la BPI. Cette soirée qui vient au terme, comme vous le savez sûrement, d'une série de trois rencontres qui ont accompagné et complété l'exposition Les éditions du Seuil, Histoire d'une maison. Exposition qui se termine aujourd'hui même ici à Paris. Mais demain, l'exposition sera présentée chez nos partenaires, c'est-à-dire d'abord à Limoges, du 21 février au 5 avril et à la Bibliothèque francophone multimédia, et puis du 22 avril au 26 mai à Caen, à l'IMEC, à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Je vais rapidement laisser la parole à Daniel Garcia de Livre Hebdo, qui va animer cette soirée et vous présenter, je crois, le volet numérique de cette exposition, et qui animera donc cette soirée consacrée à l'invention éditoriale et au rôle primordial que tiennent les collections dans cette invention. Auparavant, je voudrais vous demander un moment de recueillement. Je voudrais simplement rendre hommage à un collègue dont on a appris aujourd'hui le décès. Et si je me permets cette évocation, c'est qu'il avait largement permis, par sa compétence et sa disponibilité, que cette exposition soit prête en temps et en heure et connaisse ce succès qu'elle a connu. C'est pourquoi, entre autres choses, je tenais, au nom de la BPI et du Centre Pompidou, à lui rendre ce petit hommage. Je laisse maintenant la parole à Daniel Garcia et vous rappelle simplement qu'à la sortie, il y aura probablement une vente du catalogue de l'exposition qui sera à votre disposition.
Merci. Alors, comme vous le constatez, on fait très sérieux, comme dans les séminaires de cadres commerciaux ou d'entreprises du CAC 40, on a maintenant un PowerPoint. Pour vous montrer le site de l'exposition, c'est la première fois que la BPI et même le Centre Pompidou, je crois, fait ça, c'est-à-dire que l'exposition que vous pouviez voir sur la mezzanine, puisqu'elle elle s'arrête aujourd'hui ici avant de se poursuivre à la bibliothèque de Limoges, puis à l'IMEC, l'exposition a été mise en ligne sur un mode très dynamique, avec plein de documents tels que vous pouviez les voir sur les panneaux. Vous avez sur la page d'accueil, si vous voulez noter, vous avez l'adresse tout en haut à gauche, l'adresse sur laquelle vous pourrez retrouver. De toute façon, vous allez sur le site du centre, vous trouvez très facilement. Je me suis amusé à regarder, ça vient d'être mis en ligne, hein, donc je me suis amusé à regarder ça dans le week-end. C'est vrai que c'est très agréable par rapport au site des éditions du Seuil, maintenant où le volet historique est très 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 limité. Là, on a vraiment des photos, des documents d'époque et une véritable histoire, une mise en perspective de l'histoire de la maison, des hommes qui l'ont faite, des hommes et des femmes qui l'ont faite, et voilà, et des principaux livres. Alors, cette troisième et dernière rencontre en marge de l'exposition est consacrée aujourd'hui à l'invention éditoriale. En effet, l'éditeur n'est pas seulement, si le terme de création est plutôt réservé aux auteurs proprement dit, l'éditeur lui-même n'est pas seulement un exploitant, un commerçant qui se contente d'apposer sa marque sur les couvertures et ensuite de lancer les livres dans le commerce avec l'espoir évidemment que ça se vendra. Il a aussi une démarche de création, il apporte une plus-value au travail de l'auteur, une plus-value souvent intellectuelle. Cette plus-value peut s'exercer de différentes manières. On ne va pas en faire tout l'inventaire ce soir. On a plutôt décidé de se concentrer, de se centrer sur la notion de collection. En quoi une collection est c'est-à-dire ce label qui va regrouper plusieurs titres au sein du catalogue d'une maison, en quoi la notion de collection est une démarche importante dans le métier de l'éditeur. Alors je vais commencer par me tourner. Alors pour en parler ce soir, nous avons, je commence par tout à fait à droite, Claude Durand, qui est aujourd'hui PDG de Fayard, mais qui, dans les années de 1965 à 1978, a été éditeur au Seuil, où il a notamment dirigé la collection Écrire que Jean Cayrol avait fondée avant lui, et il a fondé lui-même la collection Combat. À sa gauche, Annie Morvan, qui anime les domaines de littérature étrangère, particulièrement les domaines hispanophones et lusophones. Maurice Hollander, qui a créé la librairie du XXe siècle, devenue aujourd'hui librairie du XXIe siècle. Il l'a créée d'abord chez Hachette, mais très vite, elle est venue s'installer au Seuil. Et enfin, Pascal Flamand. Donc, Pascal Flamand, vous êtes le fils de l'un des deux fondateurs, Paul Flamand. Vous avez été plusieurs années directeur général de la maison et vous allez commencer, puisque c'est vous qui avez eu l'idée de cette table ronde. C'est vous qui avez eu l'idée de cette notion d'invention éditoriale. Donc, vous allez peut-être nous expliquer en quoi les collections, certaines collections, ont été importantes dans l'histoire de la Maison Seuil.
Oui, j'ai eu cette mauvaise idée d'évoquer le terme d'invention éditoriale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu il y avait eu deux débats qui avaient été organisés et prévus. Le premier, qui était un récapitulatif avec Hervé Séry, qui est dans la salle, récapitulatif des grandes lignes de l'histoire du Seuil, qui avait été très intéressant. Et la deuxième rencontre portait sur le risque littéraire. Et évidemment, quand un auteur et un éditeur se rencontrent, ils évoquent le risque respectif, le risque de l'auteur et le risque de l'éditeur, et ils partagent ensemble le risque de la publication de cet ouvrage. Et autour de la table, il y avait des éditeurs et des auteurs, et c'était un débat littéraire de qualité. Et quand il s'agit d'animer une maison d'édition, il s'agit d'organiser ces risques. Il s'agit d'inventer des prises de risque. Et c'est pourquoi j'ai imaginé qu'on puisse parler d'invention éditoriale. D'invention éditoriale plus que de création éditoriale. Pourquoi ? Parce que je crois que la création, en effet, vous le disiez, Daniel, revient à l'auteur. Si on prend la définition du petit Robert, la création, c'est donner l'existence, c'est tirer du néant. Et en effet, l'auteur, en face de sa page blanche, en face de son écran d'ordinateur, tire, de son néant, sa propre œuvre qui est son originalité. Alors l'invention, si on reprend le même petit Robert, c'est quoi ? C'est trouver, imaginer pour un usage. Et en effet, il revient à l'éditeur de trouver l'usage le plus adapté qui pourra être fait de l'œuvre originale qui a été produite par l'auteur. L'auteur garde son droit moral et l'éditeur acquiert le droit d'exploitation. Et donc il revient à l'éditeur d'inventer un usage et d'inventer un mode d'exploitation le plus adapté possible à l'auteur. Alors, dans une maison d'édition, ça ne se fait pas au hasard. Il faut organiser, imaginer des structures d'accueil du manuscrit de l'auteur et imaginer le meilleur vecteur de lancement qui fera que l'ouvrage trouvera son meilleur public. C'est quoi ces structures d'accueil ? Ça peut être d'abord un cadre général. C'est par exemple dans le domaine de la fiction française, et ça s'appelle le cadre rouge, la collection de fiction française, qui est reconnaissable par son cadre plus ou moins rouge, sur un fond plus ou moins blanc, plus ou moins bistre. C'est le cadre rouge au Seuil, c'est le cadre vert pour la littérature étrangère, et Annie nous en parlera. C'est donc un domaine assez large, qui est chez Gallimard la Blanche, qui est chez Stock la Bleue, qui est chez Grasset la Jaune, enfin ça peut être toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont constituées autant de structures d'accueil générales où s'inscrivent des ouvrages qui ne sont pas enfermés à l'intérieur d'une collection prédéterminée. Il peut y avoir aussi donc les collections, et on va y revenir largement puisque c'est le thème de ce soir. Il y a aussi des ouvrages qui paraissent hors collection. Ça, on appelait ça marmite, c'est tout dire. C'est-à-dire, c'est des ouvrages qui ne sont pas identifiables par un nom de collection, qui ne sont pas identifiables par un graphisme et une maquette de couverture répétitive, mais qui se valent par eux-mêmes, indépendamment des autres ouvrages qui, eux, peuvent s'inscrire dans un cadre général ou dans une collection. Alors, puisqu'il s'agit de parler de collection, parlons de collection. Il peut y avoir plusieurs types de collections. Je distinguerai les collections a priori des collections a posteriori. Pour faire vite, les collections a posteriori, ce sont les séries d'ouvrages qui se retrouvaient a posteriori dans une collection alors qu'il n'était pas prévu de faire une collection, et je donnerai un exemple de ça. Lorsque le racisme était, il est toujours, très à l'ordre du jour, le Seuil a demandé à Tahar Benjelloun de faire une explication simple sous forme de dialogue du racisme comme s'il s'adressait à un adolescent. Et donc, c'est un ouvrage qui s'est appelé « Le racisme appliqué à ma fille bon. ». Et cet ouvrage a très bien marché. Et compte tenu de, et grâce à ce succès, pas inattendu, mais enfin ce succès-là, l'idée est venue que dans la même série, sous forme de dialogue, de petits ouvrages pas chers, avec un nombre de pages limité, il pouvait y avoir énormément de choses à expliquer à la progéniture. Et donc, pourquoi pas, pourquoi ne pas expliquer le Moyen-Âge, le divorce, Da Vinci Code, etc., aux enfants, petits-enfants, neveux, nièces, enfin, toutes les descendances possibles. Et c'est devenu la collection Expliquée à. Et c'est une collection qui a eu tellement de succès au Seuil que les confrères ont trouvé que c'était une bonne idée. Et c'est devenu presque un genre. Et on ne cesse d'imaginer beaucoup de choses à expliquer aux enfants et adolescents. Et d'ailleurs, c'est des livres qui peuvent être aussi bien faits et lus par des adultes. Donc ça, c'est pour les collections a posteriori. Mais revenons, puisque je crois que c'est le principal même du sujet que vous voulez évoquer, aux collections qui naissent a priori, qui procèdent d'une volonté explicite de l'éditeur. Et là, je distinguerai deux types de collections. Les collections qui correspondent à une volonté éditoriale, commerciale, une volonté, je dirais, une volonté prédéfinie, enfin très définie, je dirais presque à la limite produit marché, et puis les collections qui ne procèdent pas de cette logique-là, mais qui procèdent plutôt de la personnalité d'un éditeur en tant que tel. Alors, dans le cas des collections produit marché, c'est-à-dire une volonté prédéfinie, s'il fallait citer un exemple, je citerais la première collection de ce type-là que Le Seuil a publié dans les années, fin des années 50, qui est la collection Microcosme, qui a été une collection très importante au Seuil. Microcosme qui regroupe toutes les séries Écrivains de toujours, Petite Planète, Solfège, Maître spirituel, et qui avait pour vocation de publier et de présenter sous forme illustrée, ce qui était une innovation, sous forme illustrée, des textes par des auteurs de qualité, mais qui étaient des introductions destinées aux honnêtes hommes, si je peux dire. Il y avait déjà, et elle était sortie dans les années 40, la collection Que sais-je, que les PUF avaient, dont les PUF avaient initié la mise en place. Mais la collection Que sais-je s'adressait à des universitaires, des universitaires qui écrivaient pour des universitaires ou des étudiants d'université. Microcosme s'est adressé plutôt, comme je disais, à des honnêtes hommes qui voulaient acquérir une culture plus générale et qui avaient une introduction illustrée à la vie de tel auteur, tel sage, tel musicien et tel pays. Plus récemment, il y a une collection qui correspond à cette approche produit marché qui s'appelle La plus belle histoire de... C'est un peu le même principe que l'expliquer A, sauf que ce n'est pas sous forme de dialogue, mais ce sont des auteurs qui écrivent, des auteurs de notoriété, qui écrivent sur des sujets particuliers, des auteurs comme Consponville, Delumeau, Yves Coppens, Bottero, Cyrulnik, etc., et qui écrivent sur le langage, le bonheur, l'amour, Dieu, le monde... et qui sont des ouvrages qui sont très identifiables par leur maquette de couverture, par leur typographie et par le titre lui-même, La plus belle histoire de... Et là aussi, c'est devenu presque un genre imité par d'autres confrères. Dans la même catégorie, il y a évidemment les collections de poche, et la collection de poche du Seuil, c'est la collection Point, qui est le prototype même de la collection qui correspond à une volonté prédéfinie de s'adresser à un marché particulier, avec deux modes d'édition spécifiques. Soit il s'agit de reprendre un texte qui a été publié en édition première, soit il s'agit d'inédits. Et Le Seuil a été l'un des premiers éditeurs à publier des inédits en poche avec la collection Point Histoire. Voilà, donc ça, c'est le cadre des collections qui correspondent à une volonté éditoriale et commerciale à la fois. Et puis, répondant moins à un esprit de système, si je peux dire, il y a les collections qui sont liées tout simplement à la personnalité de leur directeur de collection. Et en l'occurrence, on en a deux à côté de nous, puisque Annie nous expliquera qu'elle ne s'occupe plus d'une collection, mais aussi bien Claude Durand que Maurice Hollander ont créé des collections, et ils ont créé des collections, me semble-t-il, non pas dans une perspective systématique de s'adresser à une demande produit marché, à une demande latente prédéfinie, mais une collection qui est liée à leur propre personnalité. Et ces collections-là, qu'il s'agisse de combats, qu'il s'agisse d'écrire, qu'il s'agisse de la librairie du XXe siècle, qu'il s'agisse de la République des idées, Pierre-Rose Vallon, etc., enfin, on peut en citer beaucoup, sont des espaces de liberté qui sont laissés à l'éditeur pour y publier ses rencontres, ce que ses propres interrogations le conduisent à publier. Je dirais que c'est ces rencontres-là qui donnent lieu, si on prenait un terme de chimie, on dirait que ça donne lieu à des précipités. Eh bien, ces précipités-là donnent lieu à une espèce de solidification par le texte, et au fur et à mesure que ces précipitations se succèdent, et se succèdent initiées par et accueillies par ce directeur de collection dont le point fort et le dénominateur commun est la personnalité, est l'originalité, est l'engagement, se constitue une collection. C'est une espèce de, je dirais, de polyphonie dont le directeur de collection est le chef d'orchestre. Alors, dans la présentation que vous faites de cette petite soirée, vous dites que la collection constitue un ensemble cohérent d'œuvres et d'une certaine manière dialogue entre elles. Je ne suis pas sûr qu'il faille que dans ces collections liées à la personnalité, aux interrogations successives, aux questionnements successifs du directeur de collection, je ne suis pas sûr que ces œuvres doivent correspondre à une cohérence particulière, et je ne suis pas sûr qu'il faille que ces ouvrages publiés se répondent les uns aux autres, mais ça, je pense que ce sera à Claude et à Maurice de nous répondre là-dessus. Alors, à l'intérieur d'une maison d'édition qui accueille tous ces éditeurs, toutes ces collections, comment faire vivre ces inventions éditoriales ? Parce qu'il s'agit de faire cohabiter ce qui est marmite, ce qui est hors collection, ce qui est cadre vert, cadre rouge, cadre général, et ce qui est collection et personnalité liée à la personnalité forcément forte et innovante d'un éditeur. Dommage que Denis Roche ne soit pas là, parce qu'il aurait raconté ce qu'il aime bien raconter, la manière avec laquelle a été décidée la création de la collection Fiction et compagnie. Un jour, Denis Roche, dans les années 70, je crois, est arrivé et a dit qu'il y avait trop de textes littéraires, non littéraires, de fiction française ou de fiction étrangère, qui ne trouvaient pas leur structure d'accueil dans les collections ou les espaces déjà existants au Seuil. Et il a donc soumis cela à ses confrères de la maison, et chacun, craignant de se voir marcher sur ses propres plates-bandes, a eu une réaction, je crois, plutôt négative. Et tout le monde ayant dit non, la direction de l'époque a néanmoins décidé de faire cette collection, ce qui est un paradoxe, sous réserve que la seule garantie de cette décision qui était contraire au consensus commun, c'était la personnalité de Denis Roche, et c'est devenu aujourd'hui une collection évidemment importante, une collection phare du Seuil, et qui a été reprise par Bernard Comment. Mais tout ne se passe pas forcément, cette cohabitation, dans la paix, la sérénité, et en s'envoyant des lotus. Ça m'a amusé de lire le dernier livre de Jérôme Garcin, qui s'appelle « Son Excellence, mon meilleur ami », où il évoque la cohabitation de François-Régis Bastide avec Philippe Solers. Je vous cite, il y a trois lignes. Au Seuil, pendant près de 30 ans, malgré l'exiguïté des locaux et l'étroitesse des escaliers en colimaçon, les deux rivaux, donc Solers et Bastide, s'appliquèrent donc toujours à s'éviter. Solers, feignant d'ignorer Bastide, jugeant que l'attaquer était lui donner de l'importance. Bastide, en revanche, ne manquait jamais une occasion de vitupérer Solers, qui réunissait alors tout ce qu'il détestait, la gauche extrême, ça a changé, c'est moi qui rajoute, la psychanalyse, l'illisibilité, ça a un peu changé, le matérialisme et la modernité. Donc il fallait faire vivre sous le même toit et dans ces escaliers en colimaçon étroit, ces personnalités très diverses, voire opposées. Et ce qui assurait la cohérence à cette maison d'édition, c'était l'acceptation et le respect que chacun vouait à l'autre malgré les différences et les oppositions éventuelles. Voilà ce que je voulais vous dire, cher Daniel. Je ne parle pas des échecs, on pourra en parler plus tard.
Tout à fait. Merci. Alors, vous parliez de la création de Fiction et compagnie, c'était au printemps 1974, très exactement. Et effectivement, Denis Roche avait eu cette expression, il parlait d'une structure nouvelle d'accueil pour la modernité. Les collections finissent par vieillir, surtout les collections qui se veulent un peu modernes, parce que justement, en 1900, dans les années 50, en 56 exactement, Jean Cayrol crée la collection Écrire, qui, 20 ans avant Fiction et compagnie, avait déjà l'ambition de défricher un peu la modernité. Il parlait de littérature verte, c'est-à-dire de jeunes auteurs qu'il voulait découvrir. Il a découvert un jeune auteur en 1959, qui était alors instituteur, je crois, en banlieue parisienne, qui s'appelait Claude Durand, qui a publié dans cette collection un livre qui s'appelait « Le plat du jour », c'était donc en 1959. Et puis en 1965, vous intégrez l'équipe du Seuil comme salarié et vous allez reprendre l'année suivante, en 1966, le flambeau de Jean Cayrol à la tête de cette collection Écrire, que vous allez animer encore plusieurs années. Et puis surtout en 1968, en janvier 1968, vous avez le nez assez creux puisque vous créez une collection qui s'appelle Combat et qui va devenir la collection de mai 68. C'est-à-dire qu'avec Maspero, vous allez vous partager pendant les quelques semaines où assez chaudes où les pavés volaient bas, vous allez vous partager l'édition des textes, des brûlots qui étaient immédiatement édités sur mai 68. Alors, une collection, ça, c'est aussi parfois très en prise avec le réel.
Très en prise avec le réel, oui. Et j'ajouterais peut-être au mot innovation également le mot ingéniosité. Car parfois les mobiles sont plus, relèvent plus de la ruse ou du savoir-faire professionnel que de la simple création. J'ajoute donc un petit post-scriptum à ce que vient de dire Pascal. Il existe des collections d'autres genres dans la profession qui relèvent de l'opportunisme, d'un savoir-faire professionnel, parfois de l'appât du gain, tout simplement. Et prenons trois hypothèses, par exemple. Vous avez ce qu'on appelle des collections attrape-tout. Tous les éditeurs ont connu cela. Pour attraper des auteurs qui publient chez les confrères, on crée un cadre suffisamment large, par exemple dans le style pamphlétaire, et puis on appelle ça lettre ouverte A, par exemple, où il y a d'autres titres de ce même genre. Et naturellement, on essaie de mettre sous contrat pour un titre Coco ou bien Mon cher ami, ou etc. Tu pourrais bien me donner 100 pages sur ceci qui te met en colère. Enfin bon, tout ça fait l'objet d'un déjeuner. Et on met sous contrat donc un auteur, puis après on essaie de bien le traiter pour pouvoir avoir d'autres livres de cet auteur. C'est un premier cas d'école. Vous en avez un autre où vous avez un auteur très important dans la maison que vous souhaitez garder, qui est convoité par d'autres et qui, pour des raisons de pouvoir souvent intellectuel, ou pour publier ses disciples aussi, par un moment, vous demande un jour de créer une collection pour lui. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez une sorte de constellation d'auteurs qui sont regroupés dans cette collection. Alors ça peut être en psychanalyse, ça peut être en sociologie, ça peut être dans beaucoup de disciplines. Ça, c'est caractéristique des sciences humaines, parce que parfois, il y a la collection, puis il y a la sous-collection lorsqu'il y a une dissidence. Hein, donc... Voilà, c'est un autre cas d'école. J'en viens maintenant, puisque je fais un peu partie de la proto-histoire, je dirais. C'est un des avantages de l'âge de ces collections que vous évoquiez. La collection Écrire, d'abord. La collection Écrire est créée, effectivement, en 1956, à un moment où le Seuil, qui vient de connaître un coup de chance formidable au tout début des années 50, avec la publication d'un roman italien très populaire qui était Les histoires de Don Cabillo, a est devenue une maison en vue, assez prospère, mais elle n'a pas encore de ce qu'on appelle dans le jargon du métier une écurie d'auteurs. Et notamment, elle éprouve le besoin de recruter des jeunes auteurs, de la même façon que dans d'autres maisons, et par exemple chez Gallimard, Georges Lambrix fait la même chose, ou Jérôme Blindon dans sa maison, donc de recruter des débutants de façon à les faire travailler, les épanouir et en faire des auteurs maison. L'idée à ce moment-là est venue à Jean Cayrol d'accueillir des textes indifféremment du genre, poésie, pamphlet, essai, récit, évidemment de préférence de jeunes, et d'en faire des recueils. Je précise tout de suite qu'il me semble qu'à l'époque, il y avait une précocité qui s'est atténuée depuis lors, c'est-à-dire qu'on recevait facilement des manuscrits de garçons et de filles de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qu'on recevrait plus volontiers aujourd'hui, je dirais entre 25 et 30 ans. Peut-être parce qu'il y avait moins de télévision, moins de loisirs, moins de distractions et que les jeunes étaient peut-être plus solitaires, plus astreints à écrire pour eux-mêmes, etc. Et l'idée de Jean Cayrol était simultanément à ses recueils, qui regroupait 3-4 auteurs à la fois, avec une très belle couverture d'une photographe qui s'appelait Grindard, je crois, couverture noir et blanc, avec une sorte de nature morte, d'éditer pour chaque texte un tiré à part, couleur verte, vendu, si ma mémoire est bonne, on dirait 3 nouveaux francs, qui était tiré à 300 exemplaires, et qui avait le mérite, là c'est l'ingéniosité, qui avait le mérite de faire l'objet d'un contrat assorti de ce que nous appelons dans le métier un droit de préférence. C'est-à-dire que l'auteur devait soumettre par la suite à l'éditeur ses quatre œuvres suivantes dans le même genre. Généralement donc plutôt une œuvre de fiction. Donc l'éditeur investissait dans cette première publication, mais en contrepartie, il avait le bénéfice de pouvoir examiner et publier éventuellement les œuvres suivantes de cet auteur. Donc c'était une bonne façon de se constituer un catalogue de jeunes auteurs, et on verra par la suite que cette collection Écrire a été extrêmement féconde à cet égard. Enfin, quand je dis féconde, c'est-à-dire que sur peut-être 80 auteurs publiés, entre 20 et 30 ont ensuite fait carrière, une carrière très, dans des domaines extrêmement variés. Je me rappelle, par exemple, Philippe Solers a fait partie.
Son premier texte est paru dans Écrire.
Voilà, s'il s'appelait Le Défi, c'était Écrire numéro 3, puisqu'il y avait des numéros, moi j'étais numéro 6. Geneviève Dorman, dans un genre tout à fait différent, et qui publie aujourd'hui chez Albin Michel, faisait partie d'un des premiers numéros. Quelqu'un qui n'a pas fait carrière dans le roman, mais plutôt dans le cinéma et un peu dans le théâtre, c'est Jean-Loup Dabadie, qui a publié à cette époque, alors qu'il était militaire à Saumur, si ma mémoire est bonne. Un journaliste comme Jean-François Jousselin, qui a fait le bonheur de l'Observateur, était là. Christopher Frank, qui a fait à la fois des romans et du cinéma, a publié également là. Un auteur qui a été repris par Denis Roche, Jacques Teboul, a publié d'abord dans Écrire, tout comme mon ami Pierre Mertens, le grand écrivain belge, a commencé dans Écrire et a été repris ensuite par Denis Roche dans sa collection. Et on a assisté bientôt à un phénomène. Alors, je ne compte pas non plus, mais je dois le mentionner quand même, quelques éditeurs, Jean-Marc Roberts, Raphaël Sorin, ma pomme. Donc, vous voyez, les débouchés ont été extrêmement, extrêmement variés, nombreux, pour cette pépinière. Mais on s'est vite rendu compte, avec les années, et surtout quand j'ai repris cette collection, que l'argument vous n'allez pas publier dans une collection de débutants était perçu de manière assez sensible par les jeunes auteurs et de plus en plus. C'est-à-dire que face à une concurrence, nous avions de plus en plus de mal à défendre l'idée d'une collection de débutants. Et souvent, des œuvres qui, par leur pagination, 150, 200 pages, pouvaient être publiées dans le cadre rouge, précisément, qui arrivaient pour écrire, on avait plutôt intérêt à les mettre dans le cadre rouge directement plutôt que dans cette collection de débutants. Et c'est ainsi que, par exemple, je vais citer là encore quelques exemples. D'abord, un exemple qui était une sorte de démarche politique, c'est le premier texte de Régis Debray. Régis était à ce moment-là prisonnier à Cabiri, en Bolivie. Et il fallait absolument, pour le faire libérer, le faire passer pour un écrivain. Et donc, sa famille, à ce moment-là, nous a demandé de publier 2-3 nouvelles qu'il avait rédigées avant, et on les a sorties tout de suite, là, dans le cadre rouge. Autre exemple, un jour, m'arrive, parce que j'étais, avant d'être à temps plein au seuil, j'étais lecteur pour la collection Écrire depuis 1959, donc ça fait un demi-siècle, m'arrive un manuscrit qui s'appelle « Le procès à l'amour », 200 pages, un nom illustre, le fils d'Henri de Coin. Bon. Puisqu'il avait la pagination suffisante pour être publié dans le cadre rouge, on l'a publié dans le cadre rouge, hein, Didier de Coin, devenu ensuite prix Goncourt. Des auteurs comme Patrick Besson, qui sont lus plutôt par Luc Estang, si ma mémoire est bonne, ont publié directement dans, également, là, bien que c'était des débutants très jeunes, dans le cadre rouge. Même chose pour Eric Orsenna, etc. Mais un des exemples très, très frappants, que je vais raconter en prenant un petit peu de temps, c'est celui de Modiano. Modiano, un jour, je reçois un coup de fil de Janco, qui était très copain avec la mère de Patrick, et qui me dit, j'ai un manuscrit d'un garçon, ça s'appelle La place de l'étoile, est-ce que vous pourriez le lire rapidement? Ce que je fais, j'en parle tout de suite à Paul Flamand, on fait un contrat, Modiano vient dans mon bureau, dans la petite cour du seuil, on signe le contrat. Quelques jours plus tard, coup de fil de Patrick. Je suis désolé, mais je dois vous faire un aveu. Je suis mineur et ma mère a signé chez Gallimard avec Queneau. Voilà. Donc, probablement que l'argument là, collection de débutants, a joué. Probablement que si on lui avait fait un contrat plus substantiel, en lui disant tout de suite le cadre rouge, etc., peut-être que ça aurait marché. J'ai jamais vérifié s'il avait été mineur ou pas, d'ailleurs. Peut-être que ça serait intéressant de le voir. Je n'ai pas demandé sa carte d'identité, en tous les cas. Mais enfin, bon, ça a été un manquement important, je dirais, probablement lié à cette ambiguïté de la collection de débutants. J'en viens maintenant à la collection Combat. La collection Combat, c'est une toute autre histoire. J'avais, à ce moment-là, en toute incompétence d'ailleurs, la responsabilité de secteur qui m'était échu de par le fait que Michel Kochelkiewicz, futur patron du Seuil, venait de prendre en main une revue scientifique qui s'appelait Atome et qui deviendra La Recherche. Et par conséquent, il fallait quelqu'un pour s'occuper, outre d'écrire, donc de deux secteurs dont Michel Kochelkiewicz s'occupait, le secteur russe et le secteur hispanique. Comme entre-temps, j'avais épousé une hispanophone, ça, c'était plutôt commode pour moi. Enfin, je pouvais me faire aider, en tous les cas. Et puis, j'étais très bien entouré par une pléiade d'auteurs et de lecteurs, notamment Severo Sarduy, l'excellent écrivain cubain. Raphaël Sorin, d'ailleurs, était un de mes lecteurs à ce moment-là aussi. Et, à côté de la littérature espagnole, m'arrivaient des manuscrits de témoignages en espagnol, et notamment un jour, Armand Gatti, m'apporte un manuscrit en provenance de Colombie. C'était à la fin 67, à l'automne 67, qui s'appelait tout simplement « Journal d'un guerriero colombien ». On estime qu'il faut le publier. On le sort sous une couverture blanche, caractère bâton, enfin très simple. « Journal d'un guerriero ». C'était l'époque où les guérillas en Amérique latine commençaient à connaître un certain retentissement. 15 jours après, un de mes lecteurs, qui était colombien d'origine d'ailleurs, qui s'appelait Henri de la Vega, m'apporte les papiers, les documents, les carnets d'un prêtre d'extrême gauche, colombien lui aussi, Camilo Torres. On décide de le faire et on le programme pour février 68. Le journal des guerrieros était publié en janvier 68. Puis m'arrive par d'autres voies une biographie de Guevara, de son compagnon de route en Argentine, Ricardo Rojo. Première biographie de Guevara. On décide de le faire. Mais là, ça commençait à faire une série, je dirais, un peu trop ciblée sur l'Amérique latine, pas très variée. Mais on était en mars à ce moment-là pour la publication. Il se passait des choses à Nanterre. On sent frémir quelque chose qui est dans l'air du temps. Et là, on dit, on va appeler ça combat. Il existait à ce moment-là au Seuil plusieurs collections politiques, notamment celle de Jean Lacouture, l'histoire immédiate. Il y avait également, si ma mémoire est bonne, il y avait la collection Esprit également, dirigée par Jean-Marie Domnac. Et on axe, je dirais, cette collection combat sur les luttes à travers le monde par ceux qui les accomplissent, ou qui les dirigent, ou qui les pensent. Très vite, il se passe des choses en France, comme vous le savez, et cette collection va servir d'accueil, effectivement, pour tout ce qui va germer autour de mai 68, mais pas tout de suite. Déjà en février-mars, je rencontre un émigré tchèque qui me parle de ce qui se passe dans son pays à ce moment-là, ce qu'on a appelé le printemps de Prague. Et ce journaliste qui deviendra ministre de la Culture après la chute du mur de Berlin à Prague, qui s'appelle Pavel Tigrid, me propose d'écrire un livre sur le printemps de Prague. Je dis, je prends, ça va changer un peu de l'Amérique latine. On diversifie.
On mondialise.
On mondialise, voilà. Arrive mai 68, avec tous les blocages, les grèves dans les imprimeries, enfin toutes les difficultés pour trouver du papier, etc. Et arrivent naturellement les projets autour de 68. Essentiellement d'abord un livre pour dénoncer la répression policière, édité par l'UNEF et le SNESUP, qui s'appellera « Le livre noir des journées de mai ». Qui sera tiré à 300 000 exemplaires, je crois, vendu sur les trottoirs, imprimé à la débrouille. Il fallait trouver des imprimeurs ouverts pour qu'ils soient décidés à habiliter d'une certaine manière. Naturellement, on publie toutes les vedettes de l'époque, c'est-à-dire Alain Krivine, qui écrit une farce électorale, Cohn-Bendit, qui écrit également. Bref, tout le personnel, je dirais, militant de mai 68, publie soit chez Maspero, soit chez nous. Et naturellement, ça crée une activité très bouillonnante et un grand afflux d'autres projets. Je fais un très rapide tour d'horizon de cette collection pour montrer qu'elle était vraiment globale. D'Europe de l'Est, puisqu'il y avait ce projet sur le printemps de Prague, très vite, nous nous sommes tournés vers les dissidents du RSS, où là, la liste est assez impressionnante, puisque la collection a accueilli non seulement les textes de Solzhenitsyn protestant contre l'Union des écrivains, contre sa condamnation et son exclusion, mais les documents de Marchenko, de Leonid Plyouch contre les hôpitaux psychiatriques, de Bukowski également contre les hôpitaux psychiatriques, de Sakharov, de Amalric, etc. Cependant, qu'en Tchécoslovaquie même, lors de l'invasion, c'est-à-dire au mois d'août, on sortait le livre de Tigride et on mettait la main sur les comptes rendus du 22e congrès du Parti tchèque, congrès secret qui se déroulait dans une usine au moment où les tanks russes pénétraient en Tchécoslovaquie. Et on le publie aussitôt. Il fallait pour cela une très grande complicité, je dirais, et un très grand soutien de Paul Flamand, je dois dire, car toutes ces publications se faisaient dans l'urgence, la rapidité, l'audace, et cette complicité, ce soutien se sont manifestés encore davantage pour certains livres qui feront l'objet un peu plus tard de procès multiples. Pour l'Amérique latine, nous avons continué naturellement avec les Tupamaros, l'écrasement du régime d'Allende au Chili. On n'a pas publié dans la collection Combat, mais on aurait pu le faire à l'époque, les poèmes d'Herberto Padilla, qui était le premier dissident à Cuba, avec un recueil de poèmes qui s'appelait « Hors-jeu ». En Amérique du Nord, on a accueilli les Panthères noires d'Elridge Cleaver, naturellement tous les marginaux autour de la Californie, dont Jerry Rubin avec son Do It, Herbert Marcuse naturellement. On a accueilli tout le courant antipsychiatrique autour de David Cooper, de Bassaglia en Italie. On a accueilli les indépendantistes irlandais avec Bernadette Devlin, qui était leur leader à l'époque. Et en France, je faisais allusion tout à l'heure à des livres à procès. Celui qui en a eu le plus était un livre qui s'appelait « Les dossiers noirs de la police française », sur des cas d'injustice, d'indignité, etc., d'un garçon qui était avocat, qui s'appelait Denis Langlois, qui travaillait à la Ligue des droits de l'homme. Et c'est à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, nous a intenté 7 procès. Je crois que grâce à Maître Kiegeman, on en a gagné 5 ou 6, je crois. Et ça a été vraiment des très beaux moments d'éloquence de la part de Georges. Un autre moment qui a réuni autour de cette collection l'ensemble de la profession, c'est lorsque le même ministre de l'Intérieur a interdit un ouvrage d'un chef révolutionnaire brésilien, Carlos Marighella, et que 23 éditeurs ont décidé à ce moment-là de republier le livre avec leurs marques, les 23 marques sur la couverture. Et Marcellin n'a plus eu qu'à rengainer son interdiction à l'époque. Pour la France, donc il y a eu ces dossiers noirs de la justice, la police, pardon. Il y a eu un livre tout à fait étonnant d'un garçon qui avait été condamné et puis dont le procès revenait en appel, donc était Pierre Goldman, souvenir obscur d'un juif polonais né en France. Je me rappelle le procès de Damien, notamment, où il fut jugé en appel. Et pour moi, c'est un souvenir très, très émouvant parce que c'est là, à Amiens, dans un hôtel où elle était descendue avec nous, que Simone Signoret m'a donné le manuscrit de La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Et là, je vais...
Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce qu'elle vous l'a donné justement parce que vous étiez l'animateur collection ?
Non, parce qu'elle venait de le finir. Nous travaillions depuis 2-3 ans.
Mais la sympathie qu'elle avait pour vous comme éditeur, est-ce que c'était lié justement
c'était lié parce que vous étiez l'éditeur de combat ? C'était lié à une constellation, je dirais, qui gravitait autour d'elle, d'amitié, et notamment avec Régis Debray. C'est Régis qui lui avait conseillé, après un échec de rédaction, je dirais, de travailler avec moi pour mettre au point son texte. Mais là où Combat va rejoindre écrire, je vais citer deux exemples d'auteurs qui ont débuté dans Combat et qui sont devenus ensuite des écrivains extrêmement connus. Le premier livre de Tahar Ben Jelloun a été un livre sur la misère sexuelle chez les travailleurs immigrés. À l'époque, on ne parlait pas de regroupement familial, mais c'était des hommes qu'on recrutait pour la main-d'œuvre et qui naturellement vivaient seuls. Et ce drame de la misère sexuelle a été traité par Tahar dans un livre qui s'appelle « La plus haute des solitudes ». Et ensuite, il a fait la carrière que l'on sait. Et un autre jeune auteur a fait un pamphlet, probablement en réaction à la carrière paternelle. C'était un fils de général. Le général s'appelait Penaccioni. Et cet auteur, qui a fait un livre qui s'appelait « Le service militaire au service de qui ?», s'appelait Daniel Pennac.
Très bien. Alors, cette collection vous s'arrête, je crois, au moment où vous quittez le seuil, c'est-à-dire en 1978. Donc, elle a duré 10 ans, ce qui est assez peu. Vous nous avez expliqué comment elle avait été extrêmement réactive, comment vous aviez été très, très réactive, en prise avec les événements. Aujourd'hui, elle n'existe plus depuis 30 ans. Comment définiriez-vous le destin d'une collection comme ça, la postérité d'une collection comme ça? Est-ce que vous diriez que c'est devenu un lieu de mémoire?
Non, j'expliquais tout à l'heure avec écrire qu'une certaine formule pouvait à un moment porter plus d'inconvénients que d'avantages. Dans le cas de combat, je pense que ça, la fin de combat, outre mon départ du seuil en 1978, je pense que la collection n'aurait pas pu durer beaucoup plus longtemps. Dans la mesure où c'était une collection politique, au sens large, et où le contexte commençait à changer. Certains qu'après 80, par exemple, probablement que les problèmes de justice étaient différents de ce qu'ils étaient avant. A fortiori, après la chute du mur de Berlin, le problème de la dissidence se serait posé autrement. Donc il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui à mon avis, alors elle pourrait se recréer d'une autre manière, à fortiori aujourd'hui d'ailleurs, mais je ne pense pas qu'elle aurait pu durer quelques années plus. Chaque collection, mais on le voit d'ailleurs, prenez la collection de la couture. Bon. Avec la création des magazines, la multiplication des magazines, des hebdomadaires politiques, des chaînes de télévision, la saturation presque de l'information, c'est certain qu'une collection qui s'appelle Histoire immédiate, c'est beaucoup plus compliqué à gérer dans la mesure où l'immédiateté de l'information fait que des livres publiés dans cette collection 2 mois, 3 mois, 4 mois après ont moins d'intérêt, sont un peu refroidis, je dirais, par rapport à ce que c'était pour les livres publiés dans les années 60 ou 50. Hein.
Ma question, c'était plutôt la vision rétrospective qu'on peut avoir de cet univers de collection qui a duré 10 ans, qui était lié à des années assez fortes politiquement. Il semblerait que, contre toute attente, en 2008, il y ait une espèce de regain d'intérêt pour les événements de mai 68 et après. Il y a une avalanche de titres qui sont prévus apparaître entre janvier et mai. On se demande d'ailleurs qui a pu motiver cet intérêt soudain pour l'anniversaire de mai 68.
Bah, c'est peut-être la personne qui a dit qu'il fallait tourner la page.
Peut-être. et donc cette collection Combat qui existait à cette époque... Et qui a contribué à l'image de marque du Seuil, où pendant les années 70, avait une image d'éditeur engagé très forte, que n'avait pas Gallimard, que n'avait pas Grasset, par exemple. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire que Combat, c'est un lieu de mémoire, et que peut-être les gens, les étudiants aujourd'hui qui semblent s'intéresser à l'histoire de mai 68, pourraient avoir une espèce de fétichisme, aller retrouver ces titres-là, et par capillarité, de passer d'un auteur à un autre, parce qu'ils sont sous la même étiquette de Combat?
Oui, non, ils pourraient certainement trouver à la fois des explications sur ce que les gens ont vécu et ressenti à l'époque. Ils pourraient également repérer des erreurs. Je pense à un livre que François Val et Solers m'avaient demandé de publier dans cette collection, qui était le livre de Marie-Antonietta Mazzocchi sur la Chine, par exemple. Bon. Un jour, ils me font rencontrer Althusser, qui me dit qu'il faut absolument publier ce livre, c'est très important, etc. À l'époque, il faut dire que la grande théorie de l'extrême gauche, et notamment des maoïstes, c'était il faut faire une critique de gauche de l'URSS, c'est-à-dire démontrer que le capitalisme d'État qui est en URSS génère une classe possédante, et d'une sorte d'aristocratie rouge, et qu'il y a donc de la lutte des classes. C'était la grande théorie de Charles Bethlehem, par exemple. Il est évident que ce livre-là est passé totalement à côté de ce qui se passait du point de vue de la répression, en tous les cas en Chine, même s'il contenait des choses intéressantes. Donc, relire également certains de ses textes, comme même ceux de Peter Weiss sur le Vietnam, par exemple, c'est très intéressant parce que ça montre ce qu'une partie de l'intelligentsia pensait à l'époque. Donc, c'est véritablement un lieu de mémoire. Mais je ne veux pas dire par là que des livres de combat ne sont plus d'actualité. Au contraire, là où je suis actuellement, bon, par exemple, nous développons pas mal de publications de type altermondialiste, par exemple, ou écologistes, et ce sont des livres de combat également.
Très bien, merci.
C'est pourquoi je voudrais dire que si la collection Combat s'est arrêtée quand Claude Durand est parti du Seuil, c'est pas qu'il manquait de combat, mais c'est qu'il manquait de Claude Durand. C'est une collection qui était très liée à lui et à sa capacité à cristalliser ses manuscrits et à susciter ses opportunités éditoriales.
Très bien, merci. On revient maintenant plus à la littérature avec Maurice Hollander. Alors, vous m'avez expliqué au téléphone, sans doute vous avez le goût des paradoxes, que vous n'étiez pas éditeur, que vous étiez le seul à cette tribune qui n'était pas éditeur. Et pourtant, vous êtes le directeur de collection de la librairie du 21e siècle, dont le catalogue est un vrai livre en soi. Vous avez à votre actif, dans cette collection, plus de 120 titres, et pas des moindres, avec des auteurs, je vais en citer quelques-uns, Michel Chodkiewicz, Marc Auger, que vous avez beaucoup publié, Jean-Pierre Vernant et d'autres. Alors expliquez-nous comment, en animant une collection où ne paraissent que des livres de commande en plus, donc initiés par vous, vous pouvez ne pas être éditeur.
C'est ce que je vais essayer de faire. L'exercice n'est pas simple et... Dire qu'il est sincère serait plutôt une erreur dans ce type d'exercice. Mais en effet, quand ce que vous venez d'évoquer, Daniel Garcia, vous m'avez interrogé, m'a demandé ce que j'allais raconter ce soir. Alors, c'était au téléphone. Je crois que je bredouillais parce que j'étais en train d'écrire tout autre chose. Et je vous ai dit que j'ai toujours dit. Je n'ai pas dû le dire à Claude Durand quand on s'est rencontrés à l'époque. J'y reviendrai dans un instant. Et j'ai toujours dit, et je pense aussi que je dirai toujours que je ne suis pas et ne serai jamais éditeur. Et cela en toute rigueur. C'est un métier, être éditeur. Je suis simplement historien, j'enseigne et je suis chercheur à l'École des hautes études. Et je devine trop, je sais même trop, ce que ce métier peut être pour m'en attribuer les capacités, les qualités. Quand je pense à Christian Bourgois, dont on ne sera jamais trop, jamais assez le nom, ni à Beaubourg, ni à Limec, ni ailleurs. Quand je pense à Paul Flamand, que je n'ai rencontré qu'une fois avec Pascal, quand nous avons déjeuné ensemble, qui a fondé le Seuil avec Bardet, à Pascal Flamand, qui a présidé aux destinées du Seuil en un moment de transition, qui était délicat, aussi délicat qu'important après le départ de Claude Cherki. Ça, c'est pour les grands ancêtres. Mais lorsque je regarde aujourd'hui autour de moi, et d'une manière moins masculine, de très jeunes catalogues, de toutes nouvelles maisons d'édition, celle de Sabine Vespisser ou les éditions Galade fondées par Emmanuel Colas il y a à peine plus, quelques mois de plus que 2 ans, je me dis qu'il y a là un métier qui n'est pas ce que je fais. On peut dire que les premières collections de textes, j'entends les anthologies, les réunions de textes, on peut dire qu'elles apparaissent en même temps que le métier d'éditeur, au fond, à la période hellénistique. Pourquoi pas ? Puisqu'après Alexandre le Grand, c'est le moment où on s'est mis à vouloir faire circuler déjà et réunir des textes qui étaient déjà pour eux anciens. Il y avait déjà 1 siècle, 2 siècles, des textes classiques déjà pour eux. Et même, vous le savez, de faire des premières grandes traductions, y compris de langues très barbares, comme traduire de l'hébreu lorsqu'on fabriquait de la Septante. Ce métier d'éditeur, renouvelé à la Renaissance, aujourd'hui, sous nos yeux, est en pleine conversion numérique, même si on ne sait pas très bien encore vers où ça va. C'est un métier qui a été rappelé à cette table il y a un instant, qui allie à la fois le risque. Est-ce que les Grecs, puisque j'y suis, je me suis beaucoup occupé des Grecs, ont appelé l'intelligence oblique, c'est-à-dire que ce n'est pas fait que de raisons rationnelles, mais d'autres formes de raisons. des raisons latérales. C'est un métier qui suppose à la fois de la maîtrise économique et des savoir-faire techniques, mais aussi, on le sait, des savoir-faire intuitifs. Et ces savoir-faire intuitifs, aucun lexique, aucun mode d'emploi ne les formule, d'où la difficulté de dire quelquefois à des gens plus jeunes ce que peut être ce métier. Eh bien, toutes ces techniques éditoriales, à la fois d'ordre très artisanal et pourtant industriel, je n'ai pas eu le loisir, ou peut-être aussi que je n'ai pas fait le choix, ou pas eu le temps d'en faire l'acquisition. Alors, vous me direz, que faites-vous là ce soir? Et c'est quoi, en effet? Vous venez de le rappeler, c'est quelques 130 titres de la librairie du XXIe siècle, la quarantaine de volumes interdisciplinaires de la série Le Genre Humain, ou bien d'autres volumes publiés hors collection au Seuil. Et je me suis même dit à un certain moment, mais je devais tenir le coup, après ce que je vous ai dit au téléphone, est-ce que je ne suis pas en train de me moquer à la fois du PDG actuel du Seuil, de Denis Jambard, d'Anne de Cazeneuve, notre secrétaire général, de Monique Labrune, qui préside aux sciences humaines là, et surtout, je dirais plus grave encore, de celles et ceux que j'ai eu la chance de publier. Vous avez nommé Jean-Pierre Vernant, Lydia Flemme, Tabouki, Alain Fléchère, Marcel Détienne, sans oublier même des œuvres posthumes, puisque, outre les Pérecs, il y a les œuvres complètes de Paul Celan. Est-ce que je ne suis pas un peu ce soir désinvolte en reconnaissant dans cette salle, je vois Jacqueline Risset, Milad Douhi, d'autres auteurs encore de la collection? Alors, à toutes ces questions, question que vous avez posée, celle qui se trouve sur le carton de présentation de ce soir, je n'ai pu trouver qu'une seule manière de répondre, une manière pratique, peut-être un peu influencée par le métier de chercheur à l'école des hautes études, où on rêve toujours d'être dans les laboratoires, de prendre un exemple clinique, pratique, et de dire voilà, voilà comment on travaille, et de mettre à l'épreuve des choses. Et donc, ce sont des minuscules souvenirs, en quelques minutes, des minuscules souvenirs, mais qui furent des moments éditoriaux que j'aimerais évoquer. Et il se fait, ben oui, c'est vrai que si j'ai choisi ces souvenirs-là plus que d'autres, pour essayer d'attester comment on peut ne pas être éditeur en faisant ce que je fais, il se fait que cette petite histoire, je l'ai bien sûr choisie pour ça, elle commence ici même, là. C'est vrai, ici même, et j'ai pu vérifier que c'était ici même grâce à l'équipe qu'Olivier Corpet a réunie à l'IMEC et où se trouvent mes archives, puisque j'ai pu retrouver, voilà la photocopie qui m'a été scannée, un petit carton attestant que c'est bien dans cette même salle, ici. Je ne crois pas me tromper, en tout cas je crois la reconnaître, qu'elle était déjà là le 12 mars 1982 à 20h30. Que la Bibliothèque publique d'information, qu'on appelait déjà alors la BPI, organisait une soirée intitulée, je lis, « Penser et classer » pour réfléchir la notion de hiérarchie avec plusieurs des collaborateurs de la revue. Par ordre alphabétique, Nadine Fresco, Albert Jacquard, Maurice Hollander, Georges Perec, Léon Poliakov, Jean Pouillon, Alain Schnapp. Une soirée donc présentant le numéro 2 de la revue Le Genre Humain, revue dont Claude Durand avait trouvé le nom au moment de sa création chez Fayard, quelques mois avant, à l'automne 81. Je ne sais pas s'il se souvient, mais moi je me souviens, que c'est parce que ça fait partie de l'histoire de cette revue, qu'elle s'appelait en fait son vrai nom, je vais vous la dire, le vrai nom du genre humain, vous voulez savoir, Science et Tension Sociale. Et le jour où quelqu'un a dit « Attends, il y a quelqu'un qui va arriver et dire « Donnez-moi science et tension sociale numéro 20, etc. » Non. Et alors, on était là dans le bureau de Claude Durand, et il y avait Albert Jacquard et Poliakov, il dit « Le genre humain ». Ce deuxième volume s'intitulait donc « Pensée classée ». Ce que nous ne savions pas au moment où ça se passait, c'est que nous avions entre les mains, au moment où on a reçu le manuscrit, le dernier texte que Georges Perec allait voir paraître, puisque je l'ai eu au téléphone avant sa disparition, le 3 mars, il avait reçu le volume, il avait même vu les premiers comptes rendus, je me souviens, c'est des choses qui marquent, Yversant avait fait dans l'Express une demi-page sur ce volume-là pour passer de... 8 jours plus tard, donc, je reviens, nous sommes là, ici, ce soir, dans cette même salle, il y a eu le premier hommage non organisé, spontané, de l'œuvre de Perec, puisque j'avais demandé à Marcel Benabou de venir nous rejoindre, Marcel Benabou, qui pas plus à l'époque qu'aujourd'hui n'a son nom sur ce carton. Pourquoi ai-je rappelé cela? outre le lieu, outre voilà, l'hommage que je voulais rendre à quelqu'un qui était là au moment où j'ai commencé à faire ou à ne pas faire des choses, Claude Durand. Simplement parce que quand 3 ans plus tard, et je vous raconte ça en effet comme un moment de laboratoire, voilà comment les choses se sont passées, qui permettent de dire beaucoup d'années après que j'ai rien fait. Quand 3 ans plus tard, Jean-Paul Enthoven, PDG alors d'Hachette Littérature, me propose de créer une collection, à qui j'ai dit non. À qui j'ai dit non par écrit. La lettre, elle aussi, se trouve à l'IMEC. J'ai dit non parce que je lui expliquais que la collection que je pourrais avoir envie de faire était une collection impossible chez un grand éditeur classique. Je rêvais de publier tout à la fois des écrivains, des savants, de faire la pire des choses dans le monde de l'édition, de publier des savants comme si c'était des poètes, de faire des beaux livres, des livres brefs ou longs, mais peu importe. Je ne savais pas à l'époque qu'il y aurait plus tard Yves Bonnefoy, Paul Celan et tant d'autres poètes, en effet, à côté des savants dans cette collection. Et que c'était très compliqué, lui ai-je dit dans cette lettre à Enthoven, de créer au fond une collection qui ne correspondrait pas à ce que moi, qui venais de l'université, me paraissait être le champ éditorial, et qu'on dit trop rarement, un champ très académique parce que disciplinaire. Ou pour pouvoir entrer dans les librairies et être facilement accessible, il y a des collections d'histoire, il y a des collections de psychanalyse, etc. Et que, au fond, cet univers éditorial qui ressemblait trop, pour moi, au découpage des disciplines universitaires n'était pas ce que je pouvais vouloir faire. Puis bon, bref, les choses, Enthoven, il a dit oui, il a fait quelque chose comme à l'époque, vous rappeliez à Denis Roche, c'était impossible, mais on le fait. Et à ce moment-là, pour suivre le fil toujours de ce que j'ai annoncé, cet article Pensée classée, signé de Georges Perec, a été un des premiers volumes, puisque avec les amis de Perec, on a à ce moment-là fait un sommaire entièrement organisé autour alors d'un livre et non plus d'une revue ni d'un article qui, pour l'auteur des choses et de W, La vie, mode d'emploi, allait devenir le premier posthume. Depuis, ce volume a migré récemment d'ailleurs au seuil où j'ai été accueilli par Michel Chodkiewicz, qui à l'époque était secondé par Olivier Bétourné. Alors aujourd'hui, c'est quelques 120-130 titres de la collection où, en prononçant mal son nom, j'ai eu la chance de publier Borges, ou qui dira mieux comment il faut dire, Borges, grâce à la générosité amicale d'Annie Morvan. Il y a aujourd'hui 8 autres titres de Perec, aux côtés donc de Pensées classées, publiées chez Hachette, mais qui, je me souviens que Claude Cherki me disait à l'époque, mais vous n'arriverez jamais à rapatrier votre pensée classée de Hachette au seuil, et où, comme Pascal me connaît bien, où je lui dis, vous savez, la différence entre vous et moi, c'est que moi, mes rêves se réalisent. Vous, c'est normal, c'est un PDG, ils ne doivent pas se réaliser, mais moi, si mes rêves ne se réalisent pas, alors il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, aux questions judicieuses posées par Daniel Garcia et celles également qui se trouvent sur le carton, mais comment se créent les collections et comment viennent les idées? Par ce petit témoignage, j'ai choisi, au fond, de vous dire que ce qui pourrait rendre plausible ma collection, cette collection, ce serait l'hypothèse suivante, étrange. Ce sont les textes, ce sont les livres, ce sont les auteurs qui créent leur propre collection. Ils créent leur propre collection où se retrouvent souvent des interactions inattendues où l'amitié s'allie au travail. Et au mieux, celui qui porte le nom de directeur de collection, au mieux, me semble-t-il, il en est simplement la résultante ou, si vous préférez, la conséquence. En tout cas, pour ce qui est de la trajectoire de cette librairie du XXIe siècle, si je devais lui ajouter une autre image, je dirais également que les statisticiens, vous savez, ils aiment beaucoup dire que l'improbable est inéluctable. Une autre image encore qui me vient en association simple, c'est que si Jean-Pierre Vernant a joué un rôle important dans cette collection, c'est pas simplement parce qu'il a accepté d'en signer le 100e volume, mais parce que l'insoumission, dont il nous a beaucoup parlé dans ce volume, la traversée des frontières, est, je crois, quelque chose d'important, non seulement dans l'édition, mais d'une manière générale dans les travaux qu'on fait. Et au fond, si j'avais un rêve pour la trajectoire dans laquelle je m'inscris, alors peut-être en effet avec les auteurs. J'ai toujours dit que c'était une collection d'auteurs, peut-être animée ou, oui, par un auteur. Eh bien, cette image, elle pourrait peut-être à la fois associer de l'insoumission et de l'improbable, mais qui donnerait lieu à quelque chose, on en rêve évidemment, qui soit de l'inéluctable, comme si le livre l'était. Mais ça, c'est un rêve. Voilà comment je me suis tiré d'affaire, si on peut dire.
Merci beaucoup. Pour qu'on comprenne peut-être un petit peu mieux comment vous travaillez, vous pourriez peut-être donner un exemple. Vous dites que c'est une collection d'auteurs, et en même temps, tous les livres sont de commande. Donc, comment ça s'organise? Par exemple, prenons l'exemple d'un auteur que vous avez beaucoup publié, Marc Auger. Comment vous pouvez expliquer le fait que c'est à la fois un auteur qui participe à cette collection, mais en même temps, c'est vous qui initiez sa présence dans la collection?
Je vais vous dire, c'est très simple. Je crois que dans la vie, il faut faire ce dont on est capable. Et sans texte, maintenant, je vous dis vraiment que je sais ce que c'est le travail d'un éditeur, je sais ce que Claude Durand a fait, je sais ce qu'Annie Morvan, tant d'autres présents aussi, peut-être. Je ne fais pas le travail d'un éditeur. C'est-à-dire qu'un éditeur, il a aussi des idées, il a des choses qu'il veut faire ou qu'il ne veut pas faire. Moi, ce que j'ai, me semble-t-il, c'est un certain type de rapport avec un certain type d'auteur connu ou inconnu. Prenons le cas de Marc Auger, c'est un excellent cas. À l'époque, chez Hachette, travailler ensemble, je veux voir que ce sont des gens avec qui, la majorité de mes auteurs, ce sont des gens avec qui je travaille en dehors du monde de l'édition, l'école des hautes études ou ailleurs. Je dis, voilà, tu fais quoi pour l'instant? Je veux dire, moi j'ai cette collection, je veux dire, j'aimerais que tu fais ce que tu veux. S'il m'avait dit, j'aimerais bien faire un livre sur le Tour de France, j'aurais dit, c'est très bien. Il m'a dit, je ferais bien l'ethnologue dans le métro, je lui dis, c'est très bien. Moi, j'en sais rien, il n'a pas écrit le livre. Pascal, qui a signé beaucoup de contrats pour moi, sait qu'il signe sur rien. Il signait sur rien, il n'y avait rien. Il y avait que quelqu'un allait écrire un livre, c'est tout. C'est un peu un chèque en blanc. C'est le cas également, vous posez la question de Marc Auger, quand je publiais Patrice Leroux, pourquoi pas? Ben oui, j'avais lu, au fond, si vous voulez, ma formation de lecteur-éditeur, serait une formation entièrement poétique. C'était Orange Export LTD. Pascal, non pas Pascal Quignard était l'IAE, c'était Emmanuel Ocard, toute cette bande-là. C'est-à-dire que on voyait très bien qu'une page, trois pages ou mille pages, ça peut ou ne pas être un livre. Deux pages peuvent être un livre, mille pages peuvent n'en être pas. C'est une affaire d'auteur. Donc quand je lisais un article, prenons Patrice Leroux, le philosophe, je lisais 15 pages, je dis, ce mec, il faut qu'il fasse un livre. Milad Douéi avec nous ce soir et qui vient de publier La Grande Conversion Numérique. Tous les livres qu'il a publiés sont dans la collection, Histoire perverse du cœur humain ou Le paradis terrestre. On s'est rencontrés, on a travaillé ensemble. J'avais lu, évidemment que j'avais lu ce qu'il fait. C'est pas simplement du clavardage ou autre chose. Voilà. Mais donc, c'est le rapport au texte qu'un auteur a lui-même qui me donne l'idée simplement de lui demander de tenter de faire un livre, et avec l'espoir qu'on ne se casse pas trop la figure après. Et je vous dirais qu'une autre raison pour laquelle, et c'est pas de la forfanterie, je travaille peu sur les textes. Et je travaille peu sur les textes pour une raison simple. C'est que j'écris et que j'ai déjà beaucoup de peine à écrire moi-même et que je n'écris pas les livres des autres. Je ne peux pas. Donc à la limite, si vraiment ça ne va pas, j'arrête. Je lis un manuscrit et je... que ce soit le prochain livre d'Alain Fleischer qui sort à la rentrée littéraire prochaine, autre, et je lui dis voilà comment je l'ai lu. C'est une lecture. Et puis c'est vrai qu'après, peut-être d'une manière un peu romantique, j'espère pas trop infantile, j'ai l'idée que si des deux il y a quelqu'un qui se trompe, c'est moi. Que l'auteur, à la limite même un auteur qui se trompe, pour moi il a raison. Quand je dis ça, je veux dire que je sais pas moi, dans 50 ans, dans 100 ans, qui aura comment eu raison. Et l'autre image que vous voulez qui doit être liée à l'enfance, parce que je viens d'un univers où on lisait peu et on n'écrivait pas du tout, je pensais plutôt au cinéma qu'à l'édition, je me suis toujours dit que si j'étais producteur de films, j'aurais bien fait tout Woody Allen avec les navets, tout Bergman avec les... Donc l'idée aussi de publier beaucoup de livres d'un auteur, y compris des livres qui me paraissent moins forts, ça ne me paraît pas moins intéressant, raison pour laquelle, en effet, on trouve beaucoup, beaucoup les mêmes noms d'auteurs dans la collection. Vous voyez bien que je ne fais pas grand-chose.
Claude Durand.
Je vais me faire un peu l'avocat du diable et porter une critique médiologique, je dirais, sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut à ce moment-là dire que l'auteur que vous connaissez, que vous appréciez, que vous rencontrez dans votre activité universitaire, vous allez le publier, il a un nom en général, enfin une certaine renommée. Donc on va avoir superposition de trois marques sur le livre. Le seuil, la collection, le nom de l'auteur. Est-ce qu'il vous arrive de publier quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne rencontrez pas dans votre activité, que vous recevez par la poste? Est-ce que ce genre de texte, vous le publiez?
Vous voyez Claude Durand, je me suis toujours dit que c'était un homme merveilleux. Parce que quand il veut se faire l'avocat du diable, il se fait mon avocat. Il vient de prouver que je ne suis pas un éditeur. C'est la vérité. Jamais, jamais je n'ai publié un manuscrit arrivé par la poste. Et je ne l'ai, si vous voulez, non, parce que c'est un autre métier. Et parce que moi, je n'arrive pas aux éditions du Seuil de 9h du matin à minuit. Je veux dire, j'écris des livres, je fais mes séminaires. C'est un choix très particulier. Par contre, une précision, ce ne sont pas des auteurs. J'ai publié énormément de premiers livres dans la collection, y compris, et je dois ce respect à Claude Cherki, qui était souvent en désaccord avec moi, mais il signait quand même les contrats, y compris pour l'histoire des rayures de Pastoureau. Pastoureau n'était connu que par les spécialistes de l'héraldique. Non, que ce soit, encore une fois, c'est pour ça que je parlais de Patrice Leroux ou d'autres, il y a beaucoup de premiers livres. Nicole Leroux avait à peine publié quand je l'ai publié. Je crois que vous avez tout à fait raison. Et j'ai beaucoup de mal, d'ailleurs, avec des textes qui arrivent. Et je suis, comme je me sens très très coupable, j'appelle les auteurs que je ne connais pas et je leur demande si je peux transmettre leur livre, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, puisqu'il y a quand même 30% de fiction à peu près dans ma collection, si je peux le transmettre au comité de lecture du Seuil, et je leur dis, vous aurez une réponse, et je leur dis que ce n'est pas moi qui déciderai. Donc vous avez été un excellent avocat. Merci. C'est ce qu'on appelle de vraies alliances.
Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Annie Morvan. Vous êtes traductrice. Vous avez notamment traduit une grande partie de l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. Vous êtes aussi éditrice au Seuil depuis 1990, je crois, où vous animez les domaines lusophones et hispanophones. Vous n'avez jamais créé de collection, je crois, et vous avez peut-être envie d'ajouter « surtout pas ».
Non, j'aurais envie d'ajouter « pourquoi pas », mais c'est vrai que moi, dans l'invention éditoriale, j'ai effectivement rien inventé du tout. Je veux dire, je suis l'antithèse de Claude Durand ou de grands directeurs de collection, qu'on a nommé tout à l'heure, comme Jean Lacouture ou Denis Roche. Moi, je fais un autre métier, peut-être pas si éloigné que celui de Maurice, bien que moi, je me sente vraiment éditrice, alors que toi, tu affirmes que tu ne l'es pas.
Tu travailles, c'est sûr.
Mais non, je suis une éditrice dans une grande collection généraliste et qui a vocation plus collégiale. Hein.
Mais est-ce que c'est une collection ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler en littérature étrangère de domaine?
Non, le Cadre vert, c'est une collection. Cadre vert, Cadre rouge, ce sont les deux collections de fiction généralistes du Seuil qui ne sont pas liées à des personnalités, à la personnalité d'un éditeur. Ça veut dire que dans Cadre rouge et en Cadre vert, il y a plusieurs éditeurs qui apportent des auteurs et qui travaillent et qui sont spécialisés dans divers domaines. C'est comme la Blanche chez Gallimard ou pour la littérature française et du monde entier pour la littérature étrangère. Donc le rôle de l'éditeur là n'est pas donc d'inventer éditorialement, d'inventer une collection, de saisir l'air du temps ou de saisir un moment historique ou un moment de la pensée, mais plutôt d'approvisionner une maison d'édition en auteur. Et effectivement, on est beaucoup plus effacé. Je veux dire, on est plusieurs donc, à animer cette grande collection générale, puisque je pourrais parler de Cadre vert, qui est la collection de littérature étrangère. On est plusieurs éditeurs. Il y a Martine van Gertruyden pour l'italien, il y a Anne Freyer pour l'anglais, l'allemand, le russe et un certain nombre d'autres langues. Il y a Vincent Bardet, René Tsekati pour les langues asiatiques, pour le Japon et la Chine, et disons l'Asie en général. Et puis moi qui m'occupe plus particulièrement de l'espagnol et du portugais. Donc c'est plus un fonctionnement collégial où l'éditeur est plus effacé. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de force de personnalité et qu'on n'est pas par moments des empoignades ou qu'on n'essaye pas d'imposer à toute force nos auteurs. Mais notre rôle est d'être plus effacée. Et je dirais, c'est vraiment centré sur l'auteur. Hein, et c'est là où je rejoins un peu, enfin je me sens assez proche de ce que fait Maurice, c'est que nous, notre vocation, notre passion, c'est d'aller dénicher de nouveaux auteurs et d'essayer de trouver les grands auteurs du futur, les grands auteurs de demain. Alors c'est vrai que moi, quand je suis arrivée au Seuil, j'ai succédé à Severo Sardoui, qui lui-même avait succédé à Claude Durand, et que dans le domaine donc, que Claude Cherki m'avait confié, il y avait quand même un précédent extraordinaire qui était le 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, donc qui avait été apporté et édité par Claude. Et puis, je crois que là-dedans, notre rôle, c'est vraiment ça. Je veux dire, c'est vraiment centré sur les auteurs. C'était de dénicher un nouveau talent, de dénicher une nouvelle voix, de trouver quelque chose qui soit nouveau dans le langage, dans la pensée, et d'en faire vraiment au fur et à mesure un auteur. C'est-à-dire qu'on prend un auteur et on essaye de le suivre au fil des années et de bâtir, de l'aider, de faire connaître son œuvre en France. Bon. Alors c'est un travail de longue haleine, c'est un travail plus silencieux, c'est un travail, disons, plus lent aussi, hein, mais qui est tout aussi passionnant, parce que c'est vraiment lié à la personnalité des gens que l'on aime, avec qui on a des liens. Alors on passe rarement on passe pas de commandes, mais avec qui on finit par créer des liens affectifs très très forts. Quoi. Donc voilà, je crois que d'arriver aussi à imposer des auteurs, c'est pas toujours facile. Je veux dire, quand on imposer, enfin, de faire découvrir un auteur, c'est quelque chose qui prend du temps. On peut être, disons, enthousiasmé par quelqu'un qu'on vient de découvrir, et puis le temps que nous on le découvre, qu'on le fasse traduire, qu'il soit édité, qu'il arrive au lecteur, qu'il y ait non pas un petit nombre de gens, mais au bout du deuxième ou troisième ou du quatrième livre, l'auteur arrive vraiment à être connu. Je veux dire, c'est un travail pour un auteur qui prend des années. Donc on n'est pas du tout réactif comme dans une collection d'actualité ou d'histoire immédiate ou comme Combat. Il ne faut pas être réactif au moment qui vient et de dire voilà, on va faire un livre sur ça parce qu'il est en train de se passer des choses. Non, au contraire, on est dans la construction lente.
En plus, dans ce domaine, je tiens pour le mot domaine de littérature étrangère, qui est extrêmement vaste. On pourrait aussi citer comme autre grande collection, si j'ai un autre éditeur du monde entier, chez Gallimard. Est-ce que créer des collections pour vous, ça ne serait pas au contraire vous mettre des pièges, des boulets aux pieds? Vous risquez de tomber d'avoir des écueils, de tomber soit dans des ghettos ou soit de vouloir créer une collection. On pourrait dire la bonne idée, c'est de tiens, on va faire une collection sur la francophonie. Et puis, mais après, il faut les remplir, les collections.
Oui, non, surtout pas. Je crois qu'effectivement, dans ce domaine littéraire, je pense qu'un des dangers, enfin, ce qui a peut-être été aussi à un moment donné l'écueil d'écrire, hein, c'est de parquer les gens. C'est-à-dire, bon, pourquoi est-ce que dans une grande collection de littérature étrangère ou de littérature française, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut et tous les domaines? Parce que justement, ils ne sont pas enfermés. Les auteurs ne sont pas enfermés. Donc, il y a une sorte d'émulation. Je veux dire, dans tous ces auteurs que l'on apporte, il y en a un ou deux ou trois ou cinq ou dix qui vont surgir et qui vont permettre aussi à l'éditeur de se mesurer avec le travail qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que bon, le rêve de tout éditeur dans mon domaine, c'est d'un jour de redécouvrir un autre Garcia Marquez, d'avoir un auteur à la hauteur de Günter Grass en Allemagne ou de John Irving ou de William Boyd. Donc, je veux dire, il y a une sorte d'émulation qui fait que l'on compare pas, je veux dire, on n'enferme pas un auteur dans un domaine linguistique, hein, ce qui serait effectivement enfermer les auteurs, parce qu'on serait obligé de remplir le domaine et de parfois de prendre des auteurs ou de choisir des gens qui n'en sont pas dignes, c'est-à-dire d'avoir une tendance à ce que la qualité littéraire baisse, tandis que le fait d'être dans une collection ouverte à toutes les langues fait qu'il y a une émulation dans la qualité littéraire, hein, qui est très importante, bien sûr.
Claude Durand.
Le cas de Garcia Marquez, c'est tout à fait éloquent dans ce domaine. Le manuscrit de 100 ans de solitude est arrivé, puisqu'il est arrivé sur manuscrit, au Seuil en 67, et il existait à l'époque chez Gallimard, précisément une collection ghetto pour l'Amérique latine, qui s'appelait La Croix du Sud, dirigée par Roger Cayua, qui publiait uniquement de la littérature latino-américaine, hein, Borges, Fuentes, etc. Or, je l'ai su qu'après, mais une des raisons pour lesquelles Garcia Marquez n'est pas allé chez Gallimard, c'est qu'il ne voulait pas être dans une collection de métèques, comme il disait. Il a ouvert le jeu, de par sa volonté, par la volonté de son agente, en refusant totalement de se laisser enfermer. Il faut dire aussi que Roger Cayua, sûr de son monopole sur cette littérature, copain de tous les ambassadeurs écrivains d'Amérique latine, etc., etc., avait gardé sous le coude un roman, La Maloa, de Marquez, pendant 6 mois sans jamais répondre, en disant « j'ai tout mon temps, il n'y a pas de concurrence, je suis le meilleur », etc. Et que naturellement, la jeune agente à l'époque, Carmen Balcells, qui s'occupait de ses affaires, a perdu patience et a dit on va essayer ailleurs. Et c'est comme ça, finalement, que ça s'est fait. Mais vous voyez que l'exemple d'une collection totalement repoussoire pour un grand écrivain qui cherchait à se faire publier en France.
Bien sûr, je veux dire, ce que vous dites, Claude, c'est très juste. Je veux dire, quand, pour un écrivain, ça m'est arrivé souvent que les écrivains que je publie me demandent qui était au seuil comme écrivain étranger. Donc ça, c'est important pour un auteur de savoir qu'il va être à côté de Saramago, ou qu'il va être à côté de Garcia Marquez, ou qu'il va être à côté de John Irving ou de Gunther Grass. Donc je veux dire la communauté où dans ce en quoi les écrivains se reconnaissent, s'il y a dans leur père, c'est pas forcément dans leur langue. Bien au contraire, même, je crois. Donc, la collection généraliste permet justement d'arriver d'avoir des auteurs qui aient une dimension universelle et qui ne soient pas confrontés avec un domaine linguistique qui finalement n'est pas si intéressant que ça en soi.
Maurice Lander.
Non, c'est pour aller dans le même sens. Là, c'est vrai que j'ai souvent eu, alors là, oui, quelquefois des amis, des collègues qui m'ont explicitement dit qu'ils souhaitaient être publiés dans la collection, par exemple tel historien extrêmement qui me dit mais moi je rêve d'être publié là parce qu'il y a Pérec. Ce qui est plus surprenant, ça c'est banal, je dirais, c'est que tous les savants rêvent d'être des écrivains. Ce qui est plus surprenant, ce qui est arrivé que des écrivains souhaitaient absolument être là parce qu'il y avait Jean Starobinski, parce qu'il y avait Jean-Pierre Vernant, et qui, pour des raisons historiques même, qui sont quelquefois de grands écrivains, vous les trouverez vous-même dans le catalogue, et qui ont souhaité faire partie de ce... Donc c'est...
Oui, non, mais c'est très important. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un, par exemple, dans la collection, chez l'éditeur qui publie Italo Calvino, bon, ça peut être une décision, ça peut motiver sa décision.
D'accord.
Alors, ce qui est juste un mot, puisqu'on parle de ça, et aussi pour quand même dire, je ne crois pas que je travaille beaucoup pour faire de l'édition, mais il y a quand même quelque chose. C'est certain que si on regarde les auteurs, là, j'essaye de tracer les choses d'une manière un peu plus objective. Si on regarde les auteurs publiés là, il y a, me semble-t-il, d'une manière très ténue, mais néanmoins, un fil rouge. Entre Jacqueline Risset, Milad Doueï, qui sont là, ils peuvent ne s'être jamais rencontrés, entre Del Giudice, le romancier italien, et en effet l'œuvre de Vernant et d'autres. Je pense que ce qu'il y a là, c'est pas du tout une famille commune, mais il y a peut-être, je dirais très, très modestement, des éléments de sensibilité.
Des affinités.
Des affinités, ce serait trop dire. Il me semble que ce qui court entre ces divers bouquins et ces auteurs, c'est une démarche, c'est une esthétique de l'incertitude. Ce qu'on a pu appeler les nouvelles formes de positivisme et qui ont été beaucoup publiées, tout le monde le dit, le sait, on le sait, par Odile Jacob, par exemple, c'est-à-dire des très grands savants, des très grands professeurs, mais qui savent tout. Et ils savent, que ce soit le cerveau, l'histoire, ils savent. Bon, ici, c'est le contraire. Et Jean-Pierre Vernant, il ne sait pas. Il l'écrit. Jean Starobinski, il ne sait pas. C'est tous des gens qui ne savent pas. Les écrivains n'ont pas une dogmatique, une technique de la fiction. Ils disent, moi, je vais vous montrer comment c'est du roman. Ils ne savent pas. Et il y a quelque chose de cette approche incertaine, tremblée, à la fois au savoir, ou aux arts. Qui, voilà.
Tout ça, c'est bien dur.
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle ? Non, 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 non. On va peut-être, il va être 20h30, donc on va terminer là.
Ouais, enfin bon, oui, je voulais tout de même réagir sur ce que disaient Maurice et Annie. Et surtout Maurice, parce que pour un étudiant de Villetaneuse qui a pris des notes, je ne sais pas très bien comment il va résumer ce qu'il a entendu de Maurice, parce que vous n'avez pas fait une... Enfin, l'édition, en effet, grâce à vous, ne correspond pas à un système organisé, prémédité... avec un volontarisme et une démonstration. Bon. Mais néanmoins, un éditeur, c'est celui qui accueille à l'intérieur de cette communauté d'esprit que vous dites, mais c'est aussi celui qui dit non. Bon. Et à un moment, il faut savoir dire non. Et d'ailleurs, un éditeur dit plus souvent non que oui. Et ce qui fait qu'il est éditeur, c'est qu'il fait au total des bons choix intellectuels, des bons choix littéraires, des bons choix économiques aussi. On n'en a pas parlé ici, mais enfin, ça compte. Bon. Et que, alors, vous le faites d'une façon très subtile, comme vous êtes, je dirais presque subliminale, mais néanmoins, vous dites non, et donc vous choisissez.
Je choisis, mais techniquement, et encore une fois, c'est pourquoi je pense, j'ai utilisé le mot rigueur, je crois qu'en toute rigueur, le métier d'éditeur, c'est autre chose que ce que je fais, parce qu'un éditeur dit non, et il a raison de dire non. Mais moi, à partir du moment où... Au fond, l'unique activité éditoriale réellement que j'ai, c'est la commande, c'est la demande du livre. Et si je me trompe, c'est pour ma pomme, je dirais. Ça m'est arrivé très peu.
Vous ne faites que dans le désir, pas dans le refus.
Je ne sais pas si le mot... C'est gentil. Mais c'est-à-dire que je crée une situation, en effet, qui ne prévoit pas, sauf dans des cas rarissimes, le refus, et je vous dirais sans les nommer, souvent des gens très, très, très connus, que quand je refuse un livre à quelqu'un et qu'il ne m'en veut pas, ma reconnaissance est infinie jusqu'à la fin des temps, et heureusement que ça m'est arrivé comme ça, ce qui permet de faire un autre livre, évidemment. Mais donc, c'est vrai que l'exercice du non, qui est un exercice éditorial classique, je dirais, et normatif, j'ai créé ou j'ai imaginé une situation où je pouvais peu ou à peu près pas le faire, même si ça arrive. Mais quand ça arrive, c'est quand c'est vraiment... J'explique d'ailleurs à l'auteur tous les désavantages qu'il aurait à publier ce livre.
Si je comprends bien, toutes les tentatives qu'on peut avoir pour essayer de vous convaincre que vous êtes un éditeur sont vouées à l'échec.
Non, mais j'ai eu un excellent avocat, là, il a dit.
Ce n'est pas l'invention éditoriale dont il s'agit, c'est du mystère éditorial, alors.
Vous voulez y répondre aussi à Annie Morvan ?
Non, non, il tout.
Il y a une question.
Oui. Vous avez un micro qui arrive.
Je voudrais dire quelque chose à Maurice Hollander parce que je le connais.
Bravo, bonsoir.
Je vous prie de m'en excuser. Pardon, vous m'entendez là ? Ben, c'est ce que je fais, non ?
Voilà. C'est bon.
J'ai rencontré Maurice Hollander, j'avais été adressée à Maurice Hollander il y a 20 ans ou 25 ans. Je venais de découvrir des manuscrits. En fait, je ne l'ai rencontré que pour une partie des manuscrits parce que j'en avais d'autres par derrière encore. Et il m'a demandé, est-ce que vous pouvez écrire ? C'est pour le genre humain, vous me l'avez dit il n'y a pas longtemps. Et c'était trop énorme pour moi parce que c'est des manuscrits qui avaient à voir avec le racisme. Et pour moi, c'était mon plus intime. Et je vais dire le mot de Joachim Gertz, qui est devenu plasticien, et qui a dit je ne fais que ce que je ne sais pas faire. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé un brevet d'invention de plasticienne en créant une matière qui était la symbolique même de l'écriture, qui était le fil. Parce que je ne pouvais pas, à ce moment-là, répondre à ce que vous attendiez d'écrire sur ce paquet de lettres. C'était absolument impossible. Donc moi, j'ai inventé pour dire ce que je ne pouvais pas dire. Et vous dire, voilà. Donc, vous m'avez fait inventer.
Non, non, ben merci pour ce témoignage. Mais c'était Claude Durand qui c'était à l'époque. La revue était là, chez Fayard.
Merci.
Vous voyez à quoi vous avez échappé, mon pauvre.
En vous remerciant d'être venu, on va donc terminer. C'était la fin de cette des rencontres liées à cette exposition. Mais donc, je vous le redis, l'exposition est aujourd'hui en ligne sur le site de la BPI, et donc vous pouvez la consulter. Elle va, j'imagine, le rester aussi longtemps que le Centre Popinot aura un site. Donc, ça peut être pour les siècles des siècles.
Ou qu'il y aura des clics, parce qu'il faut cliquer. Ça.